Depuis le début de la pandémie, cette situation nous a ouvert à des technologies différentes, à utilisation multiple, comme le télétravail, par exemple. Mais est-ce que, cependant, c'est applicable dans tous les cas à ce moment-ci? En fait, la vraie question, c'est que cette découverte qui nous frappe en pleine face, mais que nous cohabitions, fait en sorte qu'on n'est pas vraiment rendu là où les possibilités pourraient nous amener. Thierry Carcenti, est titulaire de la chaire de la recherche du Canada sur les technologies de l'information et des communications en éducation. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Morin.
Bonjour. Écoutez, on apprend dans la presse aujourd'hui que s'il y avait une nouvelle fermeture des écoles en septembre prochain, imaginons une seconde vague ou encore une qui persiste, une première qui persiste, en raison de la pandémie, il n'y aurait pas de cours à distance obligatoire. Est-ce que c'est pédagogique ou c'est parce que techniquement, on n'est pas capable de réaliser ça ici au Québec?
Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs, mais je pense quand même que c'est une erreur de ne pas se préparer comme il faut pour cette deuxième vague-là dont on entend parler déjà depuis le mois d'avril. Et vous savez, on a eu la chance de réaliser une enquête auprès de 10 000 parents et apprenants. Et ça a été très inégal. Il y avait des enseignants qui étaient excellents et on parle du secteur public qui étaient en contact régulièrement avec leurs élèves et tout. Il y en a d'autres où de temps en temps, il y avait quelque chose qu'on envoyait. Puis vous savez, les jeunes, ils ont appris la signification du mot facultatif pendant la pandémie. Si c'est pas obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? Mais on le fait pas, justement. Et donc, je me dis, garder le statu quo avec ce qui s'est passé personne n'a prévu n'avait pu prévoir ce qui s'est passé en avril dernier. On était tous surpris. Mais là, je me dis, on doit tirer des leçons de ça et on doit se préparer pour faire ça autrement à l'automne prochain. Je trouverais ça triste dans un contexte. Vous savez, le gouvernement investit 150 millions. Sans être mathématicien, à 500 $ la tablette, ça fait 300 millions de tablettes. C'est plus que ce qu'il y a d'élèves et d'enseignants dans tout le Canada au complet. Donc, on aurait techniquement assez de sous pour équiper chaque élève du Québec et chaque enseignant du Québec avec un appareil pour apprendre. J'espère, en tout cas, que les centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, ont tiré des leçons de ça, puis ils s'assureront que tous leurs élèves seront équipés pour l'automne.
Ça, c'est un calcul en fonction de technologie, je comprends. Mais il y a, ça a beau être technique, c'est des êtres humains qui sont derrière le clavier, qui sont devant le petit écran. Et je me demande si ça, quand ça fait, je sais pas moi, 25 ou 30 ans que j'enseigne, je veux avoir un groupe en avant de moi, je veux avoir des enfants, je veux avoir un contact. Et il y a peut-être une résistance, justement, à ces développements technologiques-là. Et même chose, toutes les clientèles ne sont peut-être pas susceptibles d'être capables d'apprentissage avec ça.
Écoutez, si les écoles sont fermées à nouveau, il y a un aspect, un défi technique, technologique, il y a un défi pédagogique qui est immense, comme vous le dites aussi. Mais l'investissement du ministère de l'Éducation fait en sorte que, techniquement, on devrait relever, en tout cas, on ne devrait plus avoir ce défi technique. Les élèves non équipés, en principe, en tout cas, on devrait, au cours de l'été, au cours de, entre du mois d'août, on devrait avoir réglé ce problème-là. Sur le plan pédagogique, c'est certain que c'est un défi. Les enseignants qui enseignent depuis longtemps se retrouver en ligne, mais parallèlement à ça, ça fait longtemps que la formation à distance existe, ça fait longtemps qu'il y a des recherches là-dessus.
Bien sûr.
Depuis le début de la pandémie, il y a tellement d'enseignants partout sur Terre qui ont partagé leurs bons coups, qui ont montré qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui marchait bien. Au Québec, on avait une enseignante du primaire superstar qui était suivie par des milliers d'élèves qui leur enseignaient le matin. Cette personne-là, elle n'est pas ingénieure en informatique. Elle a enseigné en ligne, elle a gardé ça de façon brève, elle a gardé son enthousiasme avec ses élèves, et ça se voyait dans les entrevues qu'elle a données aussi.
Madame Marie-Ève, vous me parlez de
Madame Marie-Ève, pour ne pas la nommer, que tout le Québec connaît. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des transferts qu'on peut faire avec ce qu'on faisait en salle de classe. Les outils sont beaucoup plus faciles à utiliser qu'avant. Vous savez, avant, faire un site web, communiquer en ligne, c'était compliqué. De nos jours, tous les jeunes, et même les très, très jeunes, savent comment aller en ligne, comment regarder des vidéos, comment se connecter.
Mais
l'erreur à faire, ce serait de reproduire la salle de classe. On ne veut pas planter des jeunes devant un écran de 8 h le matin à 4 h l'après-midi. Ça ne marcherait pas. Je pense qu'on doit, en tout cas, se préparer très rapidement au mois d'août sur le plan pédagogique. J'espère que tous les centres de services scolaires vont faire en sorte de bien préparer leurs enseignants. Imaginons un peu que la vague commence fin septembre, début octobre, et que ça dure jusqu'en avril, mai, comme cette année. On ne peut pas juste dire aux enseignants, vous allez entrer en contact à l'occasion avec vos élèves, ce serait une catastrophe. On ne peut pas faire ça une deuxième fois de suite.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un genre de résistance, de lobby, je vais nommer le mot, une résistance syndicale, parce que si je suis professeur, j'enseigne dans une classe régulière et que là, je sais que je peux rejoindre maintenant, je sais pas moi, 2 fois 30 étudiants ou 2 fois 23 étudiants ou 4 fois 23 étudiants, ça amène une attrition probablement du corps professoral éventuellement. Des changements technologiques ont déjà bouleversé l'emploi dans notre société.
Je vous dirais que sur le plan technologique, c'est un peu un mythe, selon moi, de penser. Les enseignants sont plus que jamais nécessaires. Il y a tellement de fausses nouvelles, il y a tellement de choses qui se passent en ligne. Je pense que l'accompagnement pédagogique des élèves est plus que jamais nécessaire dans notre ère technologique. Alors, au contraire, je pense que les enseignants sont nécessaires. C'est vraiment se tromper, faire un calcul comme ça. C'est certain qu'on fait une vidéo, on peut rejoindre des milliers de personnes. Marie-Ève l'a montré. Mais au-delà de ça, il y a toute une différence entre diffuser l'information et faire apprendre aux jeunes. Et c'est là où je pense que les enseignants, on doit les préparer à ça. Et là, il ne reste pas beaucoup de temps parce que, sauf erreur, il y a très peu de centres de services scolaires qui ont bien préparé leurs enseignants avant la fin de l'année scolaire pour une éventuelle fermeture des écoles. Et je pense vraiment qu'on a un grand travail à faire là-dessus. Certains sont déjà excellents dans ça, d'autres sont un peu plus novices, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de ressources, et j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose avant la rentrée, parce qu'on ne peut pas juste dire qu'on a été surpris par la deuxième vague. Je ne suis pas certain que à ce moment-là, les parents d'élèves vont pardonner.
Alors ça, c'est à un bout de la ligne, si on peut dire, à l'autre bout de la ligne. Moi, j'ai parlé à Mme Marie-Ève, je la connais bien parce qu'elle fait partie de la famille chez nous, Marie-Ève Lévesque. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle me disait, la dynamique qui était compliquée, c'est que dans une famille, il y a un ordinateur, il y a 2 enfants, 2 parents, un fait du télétravail, ils n'ont pas nécessairement la capacité d'avoir 2 tablettes. Donc, c'est organiser les horaires pour être capable de rejoindre les jeunes dans leur formation. Alors donc, est-ce que vous m'arrivez avec le 150 millions de dollars comme étant subventionner l'achat de tablettes pour des étudiants?
Ben, moi, je pense, en tout cas, ce que Marie-Ève vous a dit, c'est ce que l'enquête qu'on a fait auprès de 10 000 personnes révèle. Dans certaines familles, il y avait des fois 2 ordinateurs, mais il y a 3 enfants, 2 parents, du télétravail, ça marchait pas. Entre les résultats de l'enquête, on va les diffuser à la mi-août, avant la rentrée justement, pour qu'on puisse tirer des leçons de tout ça, et non pas pour critiquer ce qui s'est passé, parce que tout le monde a été surpris, mais l'organisation, c'est la clé. On a beaucoup parlé du secteur privé, où ça a relativement bien marché, mais une des clés du succès là-bas, c'était l'organisation. Au début, tout le monde a été surpris, mais rapidement, ils sont organisés, et les parents connaissaient l'horaire où les élèves avaient à faire des choses en ligne, à l'avance. Et ça, c'est important pour s'organiser, surtout quand tu es une famille nombreuse. Alors, c'est plus facile aussi de donner un petit coin tranquille à un enfant. Imaginez-vous 3 enfants, les 3 sont en train de parler en ligne en même temps avec 2 parents. Mm-hmm. C'est la cacophonie dans la maison. Et donc, l'organisation, l'équipement, mais il faut s'organiser à l'avance, encore une fois. Et je suis certain que, entre les leçons qu'on peut tirer de ça, c'est les classes de Marie-Ève en ligne, c'était planifié à l'avance. Les enfants savaient quand se connecter. Donc, les parents pouvaient organiser leur horaire de travail en fonction de ça. Moi, je pense vraiment que c'est la clé. Il faut organiser, il faut équiper, mais il faut aussi former les enseignants pour être certain. Et puis, pourquoi pas aussi former les élèves? On aura des élèves dans les écoles dès la rentrée. Et donc, les préparer justement à cette deuxième vague, leur montrer un peu comment ça va se passer quand tu vas apprendre à la maison. Je pense que le télétravail a fonctionné dans beaucoup d'endroits, on a été surpris, et l'école à distance pourrait bien fonctionner. Évidemment, ce ne sera pas parfait, mais je pense qu'il est capable, on est tous capables de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait en avril, mai dernier.
Si j'ai l'impression que les enfants, les clientèles en démarche d'apprentissage sont plus ouvertes que l'âge des enseignants et la tradition d'enseignement que nous avons chez nous dans nos milieux scolaires et d'apprentissage?
Les jeunes sont bons avec les technologies, mais ils sont surtout bons pour jouer et pour aller sur les réseaux sociaux. Par contre, le champion de l'apprentissage est encore l'enseignant. Et donc, là-dessus, l'enseignant a quand même une longueur d'avance.
Oui.
C'est certain que sur le plan technologique, l'enseignant peut rencontrer certains défis que les jeunes n'auront pas parce qu'ils ont l'habitude d'aller sur des jeux ou des réseaux sociaux, sur Internet, voir des vidéos. Mais au-delà de ça, je pense que les enseignants doivent réaliser que ce sont eux les champions de l'apprentissage. Donc, ils ont vraiment quelque chose à donner aux enfants. Et encore une fois, les outils technologiques sont vraiment simples. Je me dis, il y a un peu de temps cet été, il y a peu de gens qui vont voyager très loin. Je me dis peut-être que ça pourrait être le moment de prendre juste une petite heure pour se familiariser avec les outils gratuits pour enseigner en ligne, peu importe l'outil que c'est la même chose. Et il faut comprendre aussi que l'idée, c'est de pas de faire des leçons de 3-4 heures en ligne. Les enfants, ils trouvent ça épouvantable, même s'ils sont bons. On veut garder ça court, on veut garder ça organisé, on veut faire du soutien individuel pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Il faut pas les oublier, ceux-là non plus. Mais tout ça, c'est possible. Déjà, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, là, c'est un peu ça qui s'est passé. Là, c'est à géométrie variable. Il y a des petits moments où tout le monde est ensemble, des moments de soutien individuel. Ça a pas été parfait dans aucun pays, mais on travaille dans ce sens. Et moi, je me dis, au Québec, je pense qu'il faut se préparer pour une deuxième vague que personne ne souhaite, mais si elle arrive, il faut être le plus prêt possible et être prêt.
Il faudrait pas sacrifier une cohorte d'étudiants, d'étudiantes de quelque niveau que ce soit dû à la pandémie. On est capable de passer outre et de composer avec une réalité d'une deuxième vague si on s'y prépare.
Moi, je suis convaincu que oui, et vous l'avez bien dit, il n'y a pas juste des défis techniques, il y a des défis pédagogiques aussi, des défis familiaux, parce que les familles aussi vont devoir apprendre à s'organiser. C'est pas facile, mais c'est pour ça que je me dis, il faut se servir de cette rentrée scolaire, probablement, parce que selon moi, en partie pour justement se préparer. Et préparer, ça va rassurer les élèves, ça va rassurer les parents. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Vous savez, plusieurs parents étaient inquiets, plusieurs élèves étaient inquiets avec la pandémie. Et on voudrait, en tout cas, se servir de l'école, de la rentrée, pour les rassurer. Pas justement attendre que la pandémie arrive pour, encore une fois, avoir plus d'inquiétude, mais ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer pour l'école.
Et enfin, je pense qu'il peut y avoir une résistance chez des gens qui exercent une profession importante, où on a donné de l'importance à cette profession-là pendant des années, de voir que les techniques qu'ils utilisent sont modifiées par un autre support qui est évidemment la distance et le télé-école, si je peux dire. Parce que je me donne un exemple. Moi, je n'ai jamais été sur Facebook de ma vie. C'est mon fils qui m'a fait embarquer sur Facebook. J'avais comme le complexe de contrôler ce média-là au sens de le posséder. Et pourtant, j'ai fait la même chose dans des télévisions. Mais là, me voir chez nous, dans mon salon, avec une caméra, je n'avais pas la même aisance au début. Est-ce que ça peut être vrai pour un professeur qui a une expertise de 20-25 ans d'expérience d'enseignement, puis on lui dit « Maintenant, on change ton décor. Tu n'es plus en classe, tu es chez vous, tu es dans un local, et vas-y, sans réaction. » C'est difficile, ça.
C'est certain. Écoutez, il y a pas de secret. La formation à distance, c'est un défi. Puis là, c'est un contexte où est-ce que tout le monde risque d'être forcé de faire ça. Ce sera un immense défi. Mais à la fin, les gens ne vont pas se rappeler de l'outil technologique qui a été utilisé ou moins bien utilisé. On se rappelle de l'enseignant. Quand je vous ai donné l'exemple de Marie-Ève, de qui on se rappelle? Est-ce qu'on se rappelle de quel outil elle utilisait en ligne? Non, on se rappelle de Marie-Ève. Et c'est ça, je pense, qu'il faut garder à l'esprit. En bout de ligne, les enseignants, si on se prépare, on aura peut-être quelques défis technologiques qu'on va surmonter facilement. Il y en aura, mais je pense qu'il faut se préparer et les défis pédagogiques seront plus grands. Et c'est à ça plutôt qu'il faut vraiment se préparer. Comment je vais faire pour intéresser mes élèves à distance? Comment je vais faire pour rester en contact avec eux? Mm-hmm. Comment je vais faire pour les amener à comprendre que le devoir, il n'est pas facultatif? Donc, vérifier les devoirs qui sont donnés. Et il y a donc toute une planification à faire. Et je vous promets qu'en ligne sur Internet, il y a tellement de ressources pour les enseignants actuellement que vraiment, là, il y a de quoi pour eux de se sentir beaucoup plus rassurés pour cette rentrée.
Merci beaucoup, Thierry Karzinski, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. C'est un échange qui, à mon point de vue, peut nous éclairer énormément. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
OK, au revoir, bonne journée. Au retour de la pause, Valérie Beaudoin est avec nous. Elle est chercheure et associée à la chaire de Raoul Dandurand et chroniqueuse politique ici pour la politique américaine. On va parler de nos voisins du Sud, comment ils réagissent à la COVID, évidemment, et comment les sondages politiques plaisent ou déplaisent au président américain.